Le sujet que tout le monde parle à travers la planète baseball, c'est que se passe-t-il avec Vladimir Guerrero qui semble avoir beaucoup de difficultés à frapper la balle et c'est pas facile pour lui. En fait, pas tant chez les Blue Jays, pas tant savoir s'il faut qu'il y en ait dans les mineurs, ça c'est eux qui décident. Lui, personnellement, comment ça se passe et pourquoi ça fonctionne pas pour l'instant? On en parle avec Alex Agostino qui est avec nous. Salut Alex!
Salut, Jérémy.
Alex, assurément, tu as vu les images de Guerrero. Je savais pas qu'il y avait un protecteur au coude maintenant. Là, il est rendu avec un protecteur à la cheville gauche. La dernière balle que j'ai vue, c'était l'élan de toutes ses forces. Finalement, c'est une fausse balle retirée au premier coussin. Qu'est-ce qui se passe avec Guerrero?
Ben écoute, c'est très, très, très tôt. 10-11 parties dans sa carrière. C'est juste, après moi, il y en a qui partent bien. Surtout des... Nationals l'année passée, Acuna, des Braves ont eu des très bons débuts. Mais des gars comme Mike Trout, Vladimir Senior, Alex Bregman ont tous eu de la misère au début, mais il faut que tu t'adaptes. Parce que les 10-12 parties avant que Vladimir Junior arrive dans les majeurs, il a dominé le 3. Fait moins de 3,64, 3 circuits, des bons élans. Ce qu'il faut qu'il sache maintenant, c'est qu'il est dans la Grande Ligue. Toutes les statistiques avancées sont là. On n'est pas obligé, je n'ai parlé à Mario Langlois, mais on n'est pas obligé de lancer à Vladimir. Tu veux t'élancer toutes tes forces sur des tirs à l'extérieur de la zone ou des tirs vraiment sur la limite, on va continuer à le faire jusqu'à temps que tu t'ajustes. La journée que Vladimir Junior va enlever un peu de pression, peut-être que les Jays lui donnent un repos une journée ou deux pour peut-être regarder des vidéos, travailler un petit peu avec les entraîneurs pour... Regarde, ta force, c'est quoi dans les mineurs? Tu t'es lancé sur des prises, on sait que tu as de la puissance, tu as de la vitesse dans ton élan, mais tu t'es lancé pas sur des mauvais tirs dans les mineurs. Tu te faisais pas tirer au bâton. Là, c'est beaucoup de repères au bâton. Pourquoi? Parce qu'ils s'élancent sur les tirs des lanceurs des majeurs. Alors, il n'y a personne qui va y faire de cadeau à les adversaires. Et l'autre chose, Jérémy, quelle protection présentement que Jérémy a, ou que Vladimir Junior a, les adversaires ne sont pas là, comme j'ai dit tantôt, pour donner des cadeaux. Moi, je pense que ça va se régler. Mike Trout il avait 19 ans, il avait joué une quinzaine de parties, il est retourné dans les mineurs un peu pour la confiance, il est revenu. Je pense pas qu'on est prêt demain matin à dire on renvoie Vladimir au 3, il n'y a plus rien à prouver là. Mm-hmm. Mais il doit s'ajuster, c'est ça la plus grosse affaire. Les Jays sont nulle part cette année. Ça a bien débuté. 3 victoires, les 3 premières parties, à Vladimir, 7, incroyable, 1 coup sûr par partie. Les Jays ont gagné les matchs, c'était le fun dans les estrades, les gens avaient du plaisir. Ils sont partis sur la route, puis ça a complètement tourné de bord. Alors, faut pas paniquer à cause de son âge, à cause qu'on sait le talent qu'il a. On peut parler de quand ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver. C'est juste que peut-être une journée ou deux de repos, ça ne fera pas de tort.
Sauf que là, je regardais, puis on peut pas dire qu'il est encadré de façon merveilleuse non plus. Là. On l'avait mis au 5e rang des frappeurs. Là, on l'a mis 3e aujourd'hui, entre autres. Puis je regarde là, le haut de la formation. Tu as Galvis qui est à 269, Smoke qui est à 239, Teres qui est à 243, Grinchunk qui est à 248 et tu as Guerrero à 244. Il n'y a pas grand monde qui connaît beaucoup de succès là-dedans non plus. Fait que donc, les lanceurs sont bien positionnés pour challenger Guerrero également. Là.
100% d'accord avec toi parce que Guerrero, on sait que c'est une menace. Si tu fais une erreur dans le cœur du marbre, il va te faire mal. On l'a vu dans les mineurs, on l'a vu même à Montréal. Et statistiquement, j'ai lu quelque chose aujourd'hui sur le nombre de tirs qu'il a reçus depuis le début de sa carrière de majeur, dans les 10-12 jours qu'il est dans les majeurs. Il est le joueur qui a reçu le moins de tirs dans ce qu'il appelle le cœur du marbre, vraiment dans le milieu puis un petit peu alentour, des bases qu'on appelle frappables. Alors ça, tu le sais déjà, même s'ils n'ont pas une tonne d'histoire d'un majeur avec Guerrero, les équipes adverses qui ont tous maintenant très avancé analytique, qui ont toute l'information, le demain frappe tant quand la balle est lancée là, tant là, hop, ça c'est sa faiblesse. Mais tant que ton lanceur ne fait pas d'erreur, ben tu vas en général retirer le frappeur. Ce que Vladimir fait présentement, Junior, c'est lance trop sur des tirs parce que je pense que lui veut pas. Il ressent un petit peu de pression.
Ben oui.
Il arrive là, on parle de lui depuis qu'il y a 15 ans. On lui a donné 4 millions, c'est le sauveur des Jays. Mais un sauveur au baseball, c'est difficile parce que regardez Mike Trout, c'est-tu le meilleur joueur au monde? Moi, je pense que oui. Les Angels sont en quelle position? Même si Mike Trout connaît encore une bonne saison, ils sont en dernière place. Alors, ils sont près des Oakland, des A's d'Oakland. Alors, ça prend une équipe. Les noms que tu as mentionnés tantôt, j'ai rien contre Grichuk, contre ces gars-là comme Kenny, Freddie Galvis, c'est des joueurs du baseball majeur. Mais c'est pas des gars que tu vas, quand c'est des noyaux que tu vas gagner la Série mondiale avec ces gars-là. Alors, en sachant que Vladimir est le gars qui peut te faire mal, on n'a pas peur. Et c'est ce que j'ai dit tantôt. Un peu plus de patience, de revenir à ses forces à lui. Tu veux me donner un but sur balle? Ben, j'espère que les gars en arrière de moi vont être capables de capitaliser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense qu'à long terme, là, si ça prend une journée, tu sais, une couple de journées de 2-3, 3-4, un circuit, juste pour enlever un peu cette pression, parce que veux, veux pas, faut pas oublier que ce gars-là pourrait jouer dans la Ligue Montréal Junior Elite au Québec et encore seulement même pas 21 ans.
Ah oui, c'est grave quand même. C'est un gars qui est rempli de talent. Mais dis-moi, écoute, là, je parle à un connaisseur de baseball. On le sait, tout le monde le sait, t'es dépisteur en plus pour les Phillies de Philadelphie. Un lanceur, quand il y a un gars sur les buts, honnêtement, il peut pas être aussi performant. Et là, quand tu frappes cinquième puis personne connaît du succès, ça veut dire qu'il n'y a pas personne sur les buts quand il y va. Donc, le lanceur a beaucoup plus de liberté de challenger. Est-ce que je me trompe quand je dis ça?
Non, c'est ce que tu peux faire le plus quand la personne sur les buts. Tu peux te concentrer sur ta mécanique, tu peux prendre plus de temps. Avec un coureur sur les sentiers, spécialement si tu penses que tu es un gars rapide, le lanceur peut précipiter son geste, ce qu'on appelle le slide step. Des fois, tu es en retard dans ta motion. Les gars peuvent en perdre un petit peu. Évidemment, si tu es un coureur lent au premier but et tu es un lanceur, tu peux quand même aller avec ta motion. Même si tu es en motion coupée, tu peux lever ta jambe comme il faut, mettre ton poids sur la jambe arrière puis bien transférer. Mais c'est sûr que quand le gars, il n'y a personne sur les buts, il y a zéro distraction en termes de tel gars peut voler, court et frappe. Tu te concentres juste sur ta mécanique. Évidemment, tu es en meilleure force, mais le gars peut aussi bien en motion coupée, lancer 99 ou 100 000 à l'heure aussi. Des fois, c'est les distractions, c'est dépendamment de quel coureur est sur le sentier qui fait la grande différence. Et puis, beaucoup, Jérémy, se joue présentement dans la tête de Vladimir. Puis, tu sais, tu as parlé d'un élan, là, on sait qu'il s'élance. Des fois, il faut que tu aies une approche qu'on appelle deux prises. Une approche qui fait en sorte que, OK, si je raccourcis un peu l'élan, oui, je vais m'élancer toutes mes forces, mais peut-être un élan plus compact, peut-être juste mettre la balle en jeu, puis des fois, je trouve un trou, puis c'est un coup sûr, puis ça fait du bien dans le box-score le lendemain. Là. Puis des fois, quand tu ne fais pas d'ajustement, ça, on le voit. On le voit, les gars ne font pas d'ajustement, on veut frapper un circuit. 1-4 avec un circuit, 3 rétros au bâton, on est heureux. Ça, c'est beaucoup de changements dans la game. Je peux parler d'une statistique intéressante d'Albert Pujols, là, c'est sa 19e saison. Il n'y a pas une fois, Jérémy, que ce gars-là s'est fait retirer plus de 100 fois au bâton. Mmh. On le voit aujourd'hui, les frappeurs de puissance, c'est 130, 140, 180 rétro au bâton et on s'en fout. Et des fois, un bon vétéran, c'est qui le bon vétéran dans la chambre des Jays pour s'asseoir avec Vladimir Guerrero? Justin Smoke, excellent coéquipier. Tu sais, ça vient de deux cultures différentes. Peut-être qu'il parle, mais tu sais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Albert Pujols, il n'y a pas Miguel Cabrera dans la chambre, il n'y a pas Mike Trout dans cette chambre-là qui peut dire à Vladimir, regarde, c'est moi qui prends la pression. Pour toi, présentement, c'est Junior qui a toute l'attention sur lui.
Écoute, je regardais, puis je vais faire un peu de chiolage là, d'amateur des Blue Jays. Je regardais quand on a sorti l'information dans les médias voulant que Smoke, Stroman et Sanchez soient sur le marché des échanges. Je pense que Smoke, tout le monde s'en attendait. Stroman, on se pose des questions. Sanchez aussi, j'ai l'impression qu'on pourrait dilapider beaucoup des joueurs importants, mais bref, on est dans cette période-là du côté des Blue Jays. Ça, c'est arrivé aux alentours du 30 avril. Avant le 30 avril, les Blue Jays étaient 14 victoires, 15 défaites. Après le 30 avril, les Blue Jays sont 1 victoire, 7 défaites. Tu sais, veux pas, quand tes piliers sont ébranlés dans le vestiaire, ça peut changer un peu la dynamique aussi, non?
100% d'accord avec toi. Un excellent point en tant qu'amateur et partisan des Jays de ta part, Jérémy, parce que j'ai eu la même réflexion quand j'ai vu ça. C'est comme un Justin Smoke, OK, il coûte pas trop cher, c'est un bon vétéran, frappe de deux balles, de la puissance, peut-être pas le gars qui a la meilleure moyenne au bâton, mais quand même a donné du bon baseball aux Jays. Ça peut être un gars qui peut aider les jeunes comme dans le futur, comme Bichette et Bijot qui s'en viennent. Tu regardes ça, on rebâtit, mais t'as quand même besoin des gars qui peuvent montrer le chemin. Côté des lanceurs de Stroman et Sanchez, qui ont eu toute la misère du monde la dernière année, connaissent des bons moments cette année, tu peux quand même bâtir, mais ce que les Jays pensent, l'état-major, c'est pas mes gars, c'est pas moi qui les ai repêchés, mais s'ils connaissent un bon début de saison, on peut peut-être flipper ces gars-là pour encore l'avenir. Mais les partisans des Jays, là, c'est pas comme les partisans des Red Sox ou de Chicago. Si tu leur mets pas un produit sur le terrain, ils seront pas, les guichets tourneront pas comme dans les années où on les a vus dans les séries. Et puis, tu sais, ça peut peut-être aussi jouer dans le mental d'un Marcus Stroman qu'on sait qui est un peu piqué sous ban des Blue Jays, un gars qui est partout sur les médias sociaux, qui adore être à Toronto, qui veut demeurer là. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la chambre après ça? Je veux pas dire que ça crée des clics, mais t'as des gars, ben, Schwarman veut s'en aller, Sanchez, lui, qui dit pas un mot jamais. C'est un gars très tranquille, un gars très sérieux, mais qui attend son nom là. C'est des gars qui ont été élevés dans cette organisation. Puis, à un moment donné, oui, tu peux tourner la roue, oui, tu peux rebâtir, mais quand tu as des bons atouts, le point important, c'est de les échanger au bon moment. Si Sanchez, Schwarman, qui ont eu de la difficulté l'année passée, où est leur valeur présentement? Évidemment, si rendu à la fin, début juillet, mi-juillet, ces gars-là connaissent des bons moments. Tu as des équipes, que ce soit les Phillies, les Cubs, les Yankees, des équipes qui vont se battre pour une place dans la série et gagner le championnat. Ces gars-là deviennent des rouages importants. Mais souvent, quand tu as un joueur étoile ou un joueur dominant dans le baseball majeur, pourquoi tu vas aller chercher des vertes recrues si tu n'es pas sûr? Puis, les équipes, comme si nous, les Phillies ou les Yankees, on a un joueur de qualité, ben, on n'est pas sûr qu'on va vouloir le donner. Oui, on peut donner des joueurs dans le niveau A, mais souvent, quand tu donnes un prospect dans le niveau A, il devient plus souvent qu'autrement un suspect.
Ah, clairement. Tu comprends? Clairement. Puis là, quand j'ai entendu l'information, je me suis dit, OK, ça devait être vraiment un mauvais début de saison. Je m'en allais voir l'an passé. Écoute, à pareille date l'an passé, cette année, là, les Blue Jays, au 30 avril, étaient 14 victoires, 15 défaites. Au 30 avril, l'an passé, en 2018, c'était 16-12. Écoute, on n'est pas, comme je disais en ouverture d'émission, on n'est pas à trois continents là, de distance entre les deux fiches. Là. Fait que donc, c'est vraiment, regarde, nous, on va sortir le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme, on a comme un peu brisé le vestiaire en faisant ça. Là.
Ben, ils n'ont pas aidé à Toronto depuis le changement. Ça fait quand même une couple d'années que Shapiro et Atkins sont là. On essaie de mettre notre étampe sur l'équipe. Oui, on a amené certains joueurs, mais les joueurs importants dans cette équipe-là encore, c'est encore les joueurs d'Alex Anthopoulos et de son entourage. Quand je parle de Vladimir Junior, Justin Smoke qui a été acquis par eux, Sanchez, Stroman, repêché par ces gars-là. Tu sais, même Danny Jensen, si je ne me trompe pas, le receveur d'avenir, et plusieurs joueurs. Les joueurs qu'on a amenés présentement, ben, tu sais, les moyens que tu as mentionnés tantôt, OK, mais ils n'amènent pas non plus une tonne de présence sur les sentiers. C'est une équipe qui ne marque pas de points. La pression est énorme sur les lanceurs. Leurs relèves n'ont pas fait grand-chose présentement. Une chance que Kenny Giles, acquis dans l'échange avec les Astros pour Osuna, connaît quand même de bons moments. Quand on a une chance de gagner, il vient fermer les livres. Mais tu peux pas gagner des parties dans le baseball d'aujourd'hui en marquant 2-3 points puis en créant pas de problèmes sur les sentiers, pas de but sur balle, pas de coup sûr consécutif. Bon, oui, on a Smoke qui frappe des circuits. Drury a connu des bons moments lors de l'arrivée de Guerrero, mais c'est très difficile de ce côté-là. Puis, tu sais, je suis pas dans les secrets des dieux de ce que les Blue Jays font. Est-ce qu'on veut être comme les Orioles, les Marlins, puis vraiment rebasser comme les Astros pendant 5 ans? C'est long, ça, pour un marché comme Toronto, qui, pour moi, est un des gros marchés, un des 5 gros marchés du baseball majeur. Ils veulent voir des vedettes. Il faut que t'ailles chercher ces gars-là, puis quand t'es là, t'es garde. Mais peut-être que, en haut, au niveau des propriétaires, on dit garde, nous autres, on veut pas dépenser, on veut plus faire ça. Faites ce que vous avez à faire. On fait de l'argent quand même. Mais c'est très décevant pour les partisans. Comme j'ai dit, Toronto, c'est pas Cincinnati, là. C'est pas les Marlins de la Floride. Les gens, quand ils se tannent, ils se tannent rapidement.
Écoute, en terminant, c'est le bonheur par chez vous. Les Phillies, premiers dans l'Est, 21 victoires, 15 défaites. Écoute, on s'est parlé au courant des dernières années. C'était un peu plus complexe, mais disons que là, ça va très, très bien. Dans les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 défaites. Ça va bien pour les Phillies?
Oui, avec les acquisitions de vétérans comme JT Realmuto, Andrew McCutchen, Gene Segura, qui frappe très bien. Tu rajoutes un Harper qui connaît peut-être pas la meilleure moyenne de sa carrière pour l'instant, mais il y a une présence sur les sentiers d'en haut de 400. Il a frappé un grand chelem l'autre soir pour la victoire. Il est toujours dans l'alignement, il est tough. Nos lanceurs ont des hauts et des bas, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Puis dans la division, on sait que ça va être difficile, mais les Mets, les Braves, les Nationals spécialement, on parle de congédiement de Davey Martinez, leur gérant.
Ah oui.
Ils connaissent pas des bons moments. Et nous, 21-15,
non, mais ils sont à 6 matchs et demi de la tête. C'est quand même pas la fin du monde.
Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est de la façon qu'ils jouent. Ils ont quand même leur noyau intact là, avec Rendon, Strasburg, Max Scherzer. Ils ont fait des changements. Leur relève est pitoyable. Puis ça, tu veux pas, le gérant, il amène un releveur, il donne 3 points. C'est pas de sa faute. À un moment donné, il faut que les gars fassent le travail. Mais tu sais, c'est une vision qui va être difficile. Mais de notre côté, même nous, tu sais, ça va bien. 7-3, mais avant ça, Il y a 4-5 parties qu'on a perdues sur des circuits walk-off en fin de match, mais ce que j'ai aimé de l'équipe à cause des vétérans, c'est qu'il n'y a pas eu de léthargie de 3-4 parties rapides. Il y a eu des hauts et des bas. Mais là, tu sais, quand une équipe de même commence à prendre confiance, quand Real Muto derrière le marbre, on a donné deux prospects. Un est blessé, l'autre n'a pas lancé encore. On a un des meilleurs receveurs du baseball majeur. C'est un échange de même, n'importe quand. Gene Segura, on a donné un Araco pour lui, puis Carlos Santana, un Araco qui était dans les mineurs avec nous. Tu sais, il vient d'être monté avec les Mariners, mais on a un gars qui, 200 coups sûrs par année les trois dernières saisons, tu sais qu'il est régulier comme une horloge. Tout ce que ça nous prend, c'est la santé, que les gars connaissent des bons moments, puis plus que tu gagnes, plus que la confiance règne. Puis là, nos jeunes comme Reese Hoskins connaissent des moments, ils frappent derrière. Tu sais, on parlait de Guerrero tantôt, Reese Hoskins, là, il frappe derrière Bryce Harper.
Quand même.
Alors, Bryce Harper, but sur balle, tout le temps sur les sentiers. Là, Hoskins arrive, il y a beaucoup de points produits. Tu sais, c'est comme, la pression est sur Harper, elle n'est pas sur Hoskins, parce qu'il y a toujours des coureurs sur les sentiers. Puis même s'il sortirait de temps en temps, ben, c'est très rare qu'il n'y ait personne sur les buts quand Hoskins arrive au bâton. Puis, écoute, il y a tout le monde dans les estrades. C'est plaisant d'être quand tu es en première place, tout le monde est de bonne humeur, Jérémy. Que tu sois dans n'importe quel sport professionnel, tu te lèves le matin, les boss sont de bonne humeur, il n'y a personne qui chiale, et ça prend peut-être une léthargie de 8 à 9 parties, puis tout le monde est maussade. Mais du côté des Phillies, même dans les années difficiles, à cause de nos propriétaires, qui traitent tout le monde de la même façon, de la bonne façon, ben, tu as toujours le goût d'aller travailler pour eux. Puis de voir en première place, moi, j'ai deux bagues de la Série mondiale, puis j'aimerais bien ça en faire une troisième. C'est toujours le fun quand tu travailles pour une équipe qui veut gagner.
Exact,
ça, c'est l'autre chose. J'ai beaucoup de chums. Ceux qui travaillent pour les Orioles ou les Marlins, là, présentement, ils viennent au game, puis ils regardent même pas leur équipe jouer. Ils veulent même pas savoir c'est quoi le score. Nous, on sait que nos propriétaires, même si moi, je repêche un gars, puis il est échangé, c'est correct. Parce que le but, c'est de gagner dans les majeurs, puis notre propriétaire veut gagner.
Ah, écoute, c'est fort intéressant. Là, je sais qu'il y a le repêchage amateur qui s'en vient, mais c'est quand le repêchage amateur? Quand tu quittes pour...
4, 5, 6 juin. La semaine prochaine, on a ce qu'on appelle les réunions pre-draft, là, lundi, mardi prochain, à Philadelphie, où on prépare ce qu'on appelle le big board, là, le tableau. Tous les dépisteurs vont présenter leurs 15 meilleurs joueurs. Maintenant, on a chacun une soixantaine sur notre liste. Et après ça, on a ce qu'on appelle des réunions et des pre-draft workouts où on amène des joueurs à Philadelphie, puis on fait du testing, nos propres mini-combines à nous, parce que les saisons, l'école secondaire termine, le collège, juste les bonnes équipes continuent. Et comme vers la fin mai, début juin, on a beaucoup de rencontres avec les joueurs, avec les agents. Puis ça s'en vient, là, 2-3 semaines, ça va être fait, puis 4, 5, 6, c'est terminé. Le lendemain, 7, tu commences à travailler sur la saison 2020.
Bien, écoute, si jamais dans la semaine du 10, écoute, là, le gars te lance une invitation en direct, là.
Oui.
La semaine du 10 ou la semaine du 17 juin, OK? Si tu passes par Montréal, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de venir t'asseoir avec moi en studio. Je veux qu'on parle de ton cheminement. Je veux qu'on parle de ta job. Ça m'intrigue. J'ai tellement de questions sur la job de dépisteur professionnel au baseball professionnel, dans le baseball majeur. Ça m'intéresse. Fait que si jamais, écoute, si tu passes par Montréal, si ta femme dit oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu y ailles à la maison une fois de temps en temps, j'aimerais que tu viennes.
Je suis sur le chemin du retour ce soir pour passer les deux prochaines journées. Mais Jérémy, ça va me faire plaisir. Toujours le fun entre le 10 et le 17 d'avoir une couple de journées. Je vais être dans le coin, c'est un rendez-vous.
OK, parfait. Merci beaucoup, Alex Agostino.
Salut, Jérémy.
Merci, au revoir.